de théologie fondamentale donné par le père Marie-Dominique Philippe, le 24 janvier 1984, 5, Saint-Joseph.
Nous allons continuer cette recherche à l'égard du mystère de la parole. Alors je vous ai montré les deux grandes visions. C'est important pour nous de comprendre cette conception première de la parole telle qu'Aristote nous la donne et telle que saint Thomas l'a reprise. Il n'y a rien de changé dans saint Thomas par rapport à Aristote. C'est de voir que la parole est relative au concept. Et le concept est relatif à la réalité. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre ce circuit. Ce circuit qu'on trouve dans la philosophie grecque, le to einein, l'être, le to noein, la pensée, le legein, le dire. Alors, bien comprendre la réalité qui produit en nous le concept. Quand je dis produit en nous, il y a une coopération. La première coopération, c'est l'intelligence avec la réalité. Puis, le dire. Prenez simplement ça, rappelez-vous. C'est capital, il faut y réfléchir longuement. Marès. Le penser. Puis, à partir de là, le dégain. Le dire. La parole. Le gros problème d'aujourd'hui. Comment nous pouvons communiquer à l'autre. Problème philosophique de la communication, vous comprenez très bien, tout le problème politique de l'éducation, tout le problème politique de l'enseignement. On est en plein dedans, 1968, l'éclatement de la question de l'enseignement. Et puis le problème de l'éducation, tout Freud. C'est la pierre de touche d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, l'éducation et l'enseignement, la famille et la cité. La famille, l'éducation. Alors, l'autre, c'est l'enfant. Tant qu'on a affaire à tout petit, ça va encore. Et puis l'enseignement, c'est la cité. C'est l'aspect politique. Là, l'enseignement, c'est en vue de l'adulte, en vue de l'homme. C'est l'homme qu'on enseigne. Tout le problème de la communication. Alors, ce que nous cherchons ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut communiquer, qu'est-ce qui se communique. Monseigneur Gilson, quand je le voyais au Mans, après avoir prêché au Mans, j'avais été salué. Ce que je faisais, je dis que j'enseignais la philo. Alors il me dit, ah, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Et puis il s'est mis, parce que lui c'est son grand problème, on le sait très bien, c'est intéressant de l'entendre dire ça, c'est le problème de la communication. Alors je dis oui, c'est le problème de la communication, mais la communication dépend de toute une philosophie. Il dit oui, le grand problème c'est ça, les enfants apprennent à parler en face de la télévision, et non plus auprès de leur mère. Donc la télévision audiovisuelle fait que la parole n'est plus en contact avec une personne. On verra ça, on va voir ça progressivement. Et donc par le fait même, la parole n'a plus le côté affectif d'avant. Elle se sépare. On apprend à parler devant des gens qui ne sont pas présents. Oui. L'intentionnalité de la parole peut s'universaliser, mais la présence affective ne peut pas s'universaliser. Vous comprenez que le legale qui peut se communiquer, qu'est-ce que je communique ? Je communique le legale, je communique le dire. La parole est faite pour la communication. Le logos d'Aristote qui dit, c'est un des aspects, je ne l'ai pas vu dans la politique d'Aristote, mais c'est un des aspects sur lesquels il souligne, c'est que parce que l'homme a la parole, c'est la politique. La parole est faite pour la communication. Et c'est vrai, la parole est faite pour la communication. Normalement, quand vous êtes tout seul, vous ne parlez pas, sauf quand vous avez peur. Quand vous traversez une forêt le soir, la nuit, n'est-ce pas, en temps de guerre, je me souviens d'avoir traversé la forêt de Compiègne en temps de guerre, enfin c'était la fin de la guerre, c'est pire, c'était tout à fait à la fin. Vous savez qu'on arrêtait les gens pour prendre leur passeport, pour avoir des passeports faux, et puis on les prenait. Traverser seul en bicyclette la nuit, Compiègne, c'était pas drôle à certains moments. Les mauvais tournants, on ne sait pas sur qui on va tomber. Non. Alors à ce moment-là, on se parle à soi-même pour éviter le silence, hein, qui est le signe du vide. Alors on se parle à soi-même pour se donner du courage. Vous voyez, c'est quand même très curieux. On se parle à soi-même, ça arrive. Hein. Allez, va, marche. C'est curieux, on a besoin de parler. On a besoin, pourquoi ? Parce que la pensée, c'est le petit noyau intérieur. Et les passions, c'est notre corps. Alors, on se dédouble soi-même pour se communiquer à soi-même notre force. C'est vrai, ça. Phénomène de la prédication. Quand on ne sait plus quoi dire, comme disait le père Dehaut, il faut parler très fort. Non. Et Perdo me racontait toujours cette histoire, c'était très amusant, c'était à Compiègne, donc le Carmel des Martyrs, où on prêchait régulièrement le point de vue des martyrs. Alors un beau jour, il était prédicateur là, et puis il me dit, j'ai eu un vide, j'étais fatigué, j'ai eu un vide. C'est très gênant quand on a un vide en prédication, un blanc. Dans les examens, c'est pas drôle, mais en prédication, c'est pas drôle, pas commode du tout. Alors il me dit, je me suis mis à parler très fort. Très bien, oui. La peur pour se donner son courage à soi-même. Hein. Alors on se met à parler très fort. Il dit, je savais même plus ce que je disais, mais j'ai parlé très fort. Dix ans après, je viens au Carmel, et puis une jeune religieuse me demande de me voir. Très bien. Je viens la voir. Elle me dit, Père, vous vous souvenez de cette prédication que vous avez faite il y a 10 ans? Ah oui, je comprends, je me souviens. Puis à un moment donné, vous avez parlé très fort. Et puis alors, ça m'a été directement au cœur comme un glaive. Je suis sorti, j'ai traversé tout Compiègne à droite, à gauche, je ne savais plus. Et puis au terme, je suis entré au Carmel. Voilà. C'est extraordinaire, c'est le glaive de la parole. Il a parlé très bon. C'est très très beau ça, parce que ça montre très bien. Alors, c'est le phénomène de la prédication où de temps en temps le Saint-Esprit se sert du prédicateur, où normalement le Saint-Esprit doit servir du prédicateur. Mais on voit très bien ce qu'on représente, le phénomène de la parole, qui est donc la voix dans Saint Jean. On verra ça parce que c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que la voix, c'est quand on parle très fort. Quand on a la voix cassée, on sait très bien qu'on ne peut plus parler très fort. Tu vois. Alors, le phénomène de la voix, c'est quand même le phénomène affectif. La voix. Et c'est la présence par le fait même. Alors, on remonte à la présence, celui qui pense. Celui qui parle. Cette personne qui assistait toujours au cours de son mari qui faisait un cours en Sorbonne, un cours de philosophie, et qui me disait, c'est extraordinaire ce cours, les intonations de la voix. C'était pas du tout le contenu qui intéressait. Dans un cours de philosophie, normalement, c'est le contenu. Mais elle, c'était l'intonation de la voix. Celui qui parle, il est enveloppé d'une nuée. Enfin, c'est la voix, les intonations de la voix. C'est très important. C'est pas le contenu. Donc il y a deux choses, deux phénomènes. Le contenu du legale, c'est le Noël, ce que vous avez pensé. Il y a des gens qui ne pensent que quand ils parlent. Il y a des gens qui pensent avant de parler. Deux catégories de gens. Et alors on voit très bien que le legale, le contenu du legale vient du Noël. Et le Noël, il se réfère à la réalité. Le legale ne se réfère pas directement à la réalité. Il se réfère au Noël. Ça, c'est le petit schéma aristotélicien et de saint Thomas, que je crois être le schéma vrai. Réfléchissez bien pour essayer de le découvrir vous-même. Parce que c'est très important, ça. C'est capital de comprendre ça. Alors, vous voyez bien, le phénomène de la communication, ça fait donc, on communique par la parole. C'est la parole qu'on communique. Je ne vous communique pas directement ma pensée. Non, je ne peux pas. Ma pensée, c'est l'intérieur. C'est le verbe. Le verbe, le concept. Chose de purement intérieur et d'invisible. Tandis que la parole est visible. Et elle est visible, il y a l'élément affectif par la voix. Il y a un contact qui s'établit par le point de vue de la voix. Et par le point de vue de la voix, pour toute la personne. Alors la personne qui pense, celui qui pense. Par le domaine affectif, qui est plus qui n'est pas plus immédiate, mais qui a un aspect plus fort. On attire l'attention des gens. Il faut attirer l'attention des gens pour qu'ils écoutent. Surtout aujourd'hui, il y a tellement de bruit que ce n'est pas commode d'arriver à écouter, de faire que l'autre écoute. Parce qu'il entend, il écoute, il reçoit. Alors, la communication se fait par la parole. Donc, toute éducation, tout enseignement présuppose une communication. Aristote parle de l'instrument animé dans Politique pour essayer de préciser ce que c'est que l'esclave. Il dit la différence entre l'instrument animé et l'autre instrument, c'est qu'il est capable de recevoir le commandement. Donc, le commandement, la communication. La communication du commandement. L'imperium. Comme le commandé. Donc, toute éducation se fait par l'obéissance. Il y a communication d'imperium, communication. Alors, grand phénomène de la chose, hein, pour l'autre. Alors, voyons maintenant le schème que je vous donnais, c'est simplement pour résumer. Le schème de la philosophie contemporaine, à partir de Occam, parce que c'est Occam qui a brisé ce point de vue-là. Et ce qui est très curieux, c'est que ce schème premier, c'est un schème, ça. Je veux bien que c'est un schème qui correspond à une réalité. Occam a brisé ce schème et nous le retrouvons jusque Heidegger. De Occam à Heidegger. Et toute la philosophie analytique d'aujourd'hui. Et avec la philosophie analytique, toute l'exégèse moderne. L'herméneutique. L'herméneutique, il y a plusieurs herméneutiques, hein, mais ça je ne veux pas entrer dans le point de vue de la diversité. Diversité des herméneutiques. Je prends l'herméneutique heideggerienne, qui est l'herméneutique la plus fondamentale, parce que je crois que c'est celle qui a été, avec un fondement philosophique, la plus grande. Alors, les exégètes, ordinairement, ne sont pas très philosophes, et ils reçoivent ça comme la question moderne. Actuellement, on fait de l'herméneutique. Alors, il faut essayer de comprendre le schème que je vais vous donner maintenant. À partir d'Occam, il faut le prendre à la source, puis après on le voit dans ses conséquences. Oui. Ça c'est une source, Aristote a quand même précisé ça. Alors l'autre source, Occam, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas, je le mets en bleu, il n'y a pas de verbe. La pensée, c'est une présence à la réalité. Il n'y a pas de verbe. Qu'est-ce qui apporte donc? C'est la parole. La parole est prise directement en elle-même. Elle ne se réfère pas à la pensée, puisqu'il n'y a pas de nous. Il n'y a pas, je veux dire, de concept. Donc la parole est considérée comme directement reliée à la réalité, sans passer par le Noël. Très curieux, ça. Extrêmement curieux. Et ça, on voit ça en logique. Et donc la parole, le grand problème de la parole, c'est la supposition, ce que je vous dirais. La parole remplace la réalité. C'est le substitut de la réalité. Un substitut de la réalité qui fait que le lien entre la parole et la réalité n'implique pas de signification au sens absolu. La parole est conventionnelle, elle est fictive, mais elle a sa signification. Mais le problème de la signification est lié en premier lieu au problème de la supposition, c'est-à-dire la parole remplace la réalité. Donc, il faut regarder la structure de la parole dans la phrase, dans l'ensemble, dans le tout, sans aucune référence à celui qui pense. Vous avez tout le structuralisme. Tout le structuralisme coupe de la parole. Il faut une œuvre, je dirais, la parole est prise pour elle-même et en elle-même. C'est ce que dit Heidegger quand il dit qu'il faut regarder le poème pour lui-même. C'est vrai au niveau artistique. Alors, confusion, je crois qu'on peut dire confusion ou manque de distinction, si vous voulez, entre la parole prise comme moyen de communication et la parole poétique, c'est-à-dire le symbole. Alors, on considérera toute parole, ce qui est en partie vrai, toute parole est un symbole. Mais c'est un symbole conventionnel qui est ordonné à exprimer ce qu'on pense. Mais vous pouvez regarder le symbole en lui-même. Dans une œuvre poétique, c'est ce que vous faites. Dans une œuvre poétique, vous regardez le poème en lui-même, comme une réalité que vous devez comprendre. Une œuvre d'art, vous la regardez en elle-même. Vous n'avez pas besoin de vous référer à l'artiste qui l'a pensé. Si l'artiste est mort, l'œuvre d'art demeure. Et l'œuvre d'art se tient par elle-même. Alors, la parole est conçue par rapport à l'œuvre d'art, et non plus par rapport à celui qui pense. Autrement dit, je crois que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre au point de vue philosophique, toute parole est symbolique. Mais il y a deux espèces de symboles. Il y a un symbole dans lequel le point de vue du signe l'emporte, et le point de vue d'un symbole dans lequel la réalité symbolique est prise pour elle-même. Donc vous avez deux conceptions de la parole, une radicale au niveau philosophique qui se réfère à celui qui pense, ça c'est le point de vue philosophique. Et puis la parole conçue comme une œuvre d'art qui doit être regardée pour elle-même. Et c'est cela qui l'emporte à partir d'Occam. Jusqu'à Heidegger. Mais en gros, c'est ça. Hein. Donc, autrement dit, il y a une coupure et la référence est immédiate à la réalité. Je crois que c'est ce petit chêne qui fait le mieux comprendre ce que représente la philosophie analytique. La philosophie analytique regarde uniquement la parole. Et non plus du tout l'intention de celui qui parle. Vous ne regardez plus que la parole. Alors, vous comprenez très bien que si vous ne regardez plus que la parole, vous ne pouvez plus comprendre cette parole qu'en fonction du milieu. Le milieu, au point de vue de la culture, dans laquelle cette parole a été émise, exactement comme une œuvre d'art exprime quelque chose qui implique tout le milieu dans lequel on est. Heidegger prend le sphinx d'Égypte. Si vous regardez le sphinx d'Égypte, hein, si vous le regardez en lui-même, très bien, mais vous ne comprenez pas sa signification, il a une valeur en lui-même, mais sa signification dépend du milieu. Le milieu de la culture dans laquelle les milieux religieux, comme Sphinx en Égypte, au milieu de la culture. Donc la signification est en dépendance du milieu et non pas en dépendance de celui qui pense. Alors, deux problèmes. La parole a en elle-même sa valeur symbolique, qu'on doit considérer en elle-même. Deuxièmement, si vous creusez sa signification, vous regardez le point de vue du milieu. Et c'est la référence vers le milieu. Alors, vous avez donc cette conception tout à fait particulière de la parole qui implique... Alors, pour le phénomène de la communication, il faut donc recréer un milieu par lequel le point de vue du symbole reprendra sa signification. Si vous ne recréez pas ce milieu, la communication ne se fait pas. Il y a quelque chose de juste, hein, faut pas du... Il y a quelque chose de juste, mais vous voyez bien, c'est partiellement juste. Je crois qu'il y a deux confusions là-dedans. Il y a la confusion de l'œuvre d'art. La parole est tout de suite considérée au niveau poétique. Donc, comme un symbole religieux. Alors que la parole a premièrement une valeur de communication qui n'est pas premièrement poétique. Parce qu'il n'y a pas que la connaissance poétique. Il y a la connaissance poétique, mais il y a d'autres types de connaissances. Il y a des connaissances utilitaires, il y a des connaissances, et ainsi de suite. Il y a des connaissances d'ordre pratique, il y a des connaissances affectives, il y a des connaissances philosophiques et scientifiques, où la parole a une autre valeur. Premièrement. Deuxièmement, le point de vue, le problème de la signification, est-il premièrement relié au milieu ? Il est dépendant du milieu, mais le problème de la signification est relié à celui qui pense. En premier lieu, la signification n'est pas premièrement un phénomène du milieu, mais de l'homme qui pense. Donc là encore, alors l'homme qui pense est dépendant de son milieu, c'est évident, mais tout dépend le niveau de sa pensée. Quand il s'agit d'une pensée utilitaire, économique, il est totalement dépendant du milieu. Mais quand il s'agit d'une pensée affective, il est dépendant de l'ami. Et quand il s'agit d'une pensée philosophique, il est au-delà du milieu et il dépend de la réalité. Eh bien, tout ça est confondu. On ne voit plus ces différents niveaux de signification. La signification est en référence avec le milieu. Réfléchissez à ces deux petits schèmes, parce que je crois que c'est capital pour comprendre le problème d'aujourd'hui, et même tout le problème, voyez, de la catéchèse. Puisque tout le problème de la catéchèse, c'est le problème de la communication de la foi. Et la communication de la foi se fait par la parole. Et donc la conception qu'on a de la parole dépend nécessairement. La catéchèse dépend de cette conception. Et pour moi, c'est le problème. Quand on veut renouveler la catéchèse en oubliant que, de fait, tout dépend d'une conception philosophique occamienne, on ne voit pas assez loin. Et donc, on va vers un échec. Ça ne peut pas être autrement. Parce que si on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas communiquer la foi. La foi implique une connaissance qui va toucher la réalité. Dieu, c'est la réalité, c'est res. Saint Augustin, c'est res. Et la foi est à ce point de vue du réalisme. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc là, c'est simplement. Il y a une question ? Oui ? Oui, tout à fait. Symbole. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est symbolique, avant tout. Oui. Et comme le symbole est parfait dans l'œuvre d'art, c'est dans l'œuvre d'art où le symbole est le plus parfait. Et dans l'œuvre d'art, c'est très vrai. La réalité artistique doit être regardée pour elle-même. Oui. Je me souviens, c'était toujours... C'était le type des souvenirs de Fribourg. Quand on allait de temps en temps à Berne voir une exposition artistique, j'aimais d'emmener quelques étudiants. Alors on allait ensemble. Et alors on se retrouvait dans le train ordinairement avec les Suisses alémaniques, qui allaient de leur côté avec leurs professeurs. Alors, on voyait la différence. C'est que ce professeur, lui, disait « Ah, l'explication d'un tableau. Nous, nous disions au contraire, il faut le regarder. Vous pigez ou ne pigez pas une œuvre d'art, il faut le regarder. Et de l'autre côté, on analysait. Vous voyez, c'est très curieux. La symbolique artistique, hein, une œuvre d'art demande d'être saisie pour elle-même et par elle-même. Je crois que c'est propre c'est propre de l'œuvre d'art. C'est qu'il porte en lui un message. Vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas. Ça, c'est un fait. Il y a des gens qui comprennent et puis des gens qui ne comprennent pas. L'explication que vous donnez n'est plus artistique. Et donc abîme l'œuvre d'art. Forcément, là, je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est vrai que le symbole porte en lui-même sa valeur. Mais, faisons attention, ça c'est le symbole artistique de l'œuvre d'art, ce que nous verrons avec l'inspiration. Mais il y a dans la parole autre chose que l'œuvre d'art. La parole n'est pas seulement œuvre d'art. On peut parler, les Japonais savent ça très bien. C'est qu'ils savent qu'il y a deux manières de discourir. Fribourg, un grand japonais, assez particulier, pas commode, du reste, très difficile, parce qu'il était fils d'une dynastie impériale qui n'était plus sur le trône, mais il gardait dans son cœur la dynastie impériale. Alors je me souviens, quand il avait été revenu, vu que un de ceux qui étaient au pouvoir actuellement, je lui ai dit, alors comment ça s'est passé le dialogue? Ah, on a pris un discours poétique. Alors ça voulait dire, on a pris un discours poétique, on a parlé, mais on n'a rien dit. On a pris un discours poétique. Vous voyez, nous, nous dirions un discours diplomatique. Chez eux, c'est un discours poétique. Alors on a le discours poétique où on accumule les symboles, on ne dit rien. Et puis il y a le discours, alors, où on communique vraiment ce qu'on sait. Deux choses différentes. Eh bien, je crains, vous voyez, qu'à partir de Occam, le primat de la logique, c'est très curieux, c'est né à partir de la logique. Le primat de la logique a conduit à faire que la parole ne soit plus que le poème. Heidegger le dit ouvertement, la parole n'est plus que le poème, c'est la parole parlante. Vous voyez, la parole parlante, c'est le poème. Alors on doit le regarder pour lui-même. Et nous dirions dans un langage scolastique, c'est univoque et ce n'est plus analogique. Et c'est vrai, c'est univoque parce que tout est polarisé par ce point de vue du poème. Oui. Donc c'est le point de vue symbolique qui se substitue à la réalité. Et par le fait même, puisqu'il se substitue à la réalité, le langage n'aura plus la signification à partir de la res, mais à partir du milieu. Alors il y aura ces deux choses tout à fait particulières. L'œuvre a sa valeur en elle-même, elle se présente en elle-même, elle est coupée de celui qui l'a faite, et puis on doit découvrir sa signification à partir du milieu. Alors, maintenant nous allons essayer de regarder le phénomène de la parole divine. Et puis on va essayer de comprendre lequel de ces deux chaînes qu'on applique à la parole de Dieu va-t-il nous faire entrer plus profondément dans la parole de Dieu? La théologie, qu'est-ce que c'est que la théologie? Parce que nous faisons une théologie fondamentale. Donc nous réfléchissons sur le lien foi-intelligence. Nous voyons qu'il y a une double intelligence de la parole. Laquelle de ces deux intelligences de la parole peut-elle être la plus adéquate au mystère de la foi? Là, je pose le problème, et c'est important de se le poser. Alors, nous avons donc ces deux chaînes. Là, nous sommes dans l'ordre philosophique, hein, purement philosophique. On peut discuter, c'est de l'ordre purement philosophique. Le chaîne premier aristotélicien thomiste, le schème occamien heideggerien. C'est net. Et je dis ça, Occam je veux dire, est source d'une nouvelle conception. Il est génial à ce point de vue-là, mais il a donné naissance à une conception tout à fait nouvelle de la parole. Alors, nous allons essayer maintenant de comprendre, en nous plongeant dans la foi, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous allons nous poser la question, pas aujourd'hui, mais la fois prochaine, quel est le chaîne philosophique qui peut nous aider à comprendre toute la richesse de la parole de Dieu. Alors, première recherche, on ne peut pas la faire complète, mais on va la faire partie. Le mystère de la parole de Dieu. Qui a dit à la parole du Fils, qui est la parole, le Verbe devenu chair. C'est le début de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître de la parole. C'est l'Épître du sacerdoce et de la parole. C'est extrêmement curieux. Alors, ce qu'il faudrait faire, faites l'enquête vous-même. Je vous l'ai déjà dit, quand vous lisez l'Écriture, relevez tous les textes sur la parole. C'est très important. Pour ce faire, d'une façon descriptive, toutes les propriétés de la parole de Dieu. J'avais fait l'enquête, je l'ai prêtée, puis ça n'est pas revenu. Je suis appauvri. C'est très bien, comme ça je ne l'ai pas. Autrement, c'est passionnant à faire. Comment Dieu lui-même nous montre ce qu'est la parole de Dieu. Parce que ça, c'est quand même très important. Dieu n'a pas inventé une nouvelle langue, il aurait pu. Dieu s'est servi d'une langue humaine. Pour nous, Dieu s'est servi d'une langue conventionnelle. Vous savez que dans la perspective des rabbins, il ne faut jamais l'oublier, dans la perspective des rabbins, pas tous les rabbins peut-être, mais beaucoup, beaucoup. Tous ceux que j'ai interrogés m'ont toujours dit la même chose. C'est une chose qu'il faut tout de suite demander à un rabbin. Dans la perspective des rabbins, la langue hébraïque est une langue divine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le phénomène d'une langue conventionnelle. C'est pour ça que d'une certaine manière, on ne peut pas traduire. Quand je suis en face du latin et du grec, je suis en face d'une langue qui est païenne, dont Dieu s'est servi. L'Église s'est servie du grec. L'Église s'est servie du latin. Jésus s'est servi du grec. Jésus s'est peut-être servi aussi du latin. C'est plus difficile à savoir si Jésus a parlé latin. On lui demandera. N'est-ce pas? Mais c'est grec sûrement. Grec sûrement. À Jérusalem, on parlait grec. Marie a-t-elle parlé grec? Mais Jésus a parlé grec. À Jérusalem. Pas en Galilée. À Jérusalem. À Koiné. Saint Paul a parlé grec. Alors, ce sont des langues dont Dieu s'est servi. Je crois qu'on peut dire la même chose de l'hébreu. Et la différence de l'hébreu, c'est que l'hébreu, il a tout de suite servi à un langage prophétique, à un langage divin. Et c'est pour ça que, de fait, ils disent la seule langue qui n'est pas conventionnelle, c'est l'hébreu. Et donc, c'est une langue divine. Alors, si vous dites que l'hébreu est une langue divine, vous ne pouvez plus le traduire. Je crois que nous devons dire que le langage de l'hébreu est une langue comme les autres, mais elle est née dans un climat religieux. Alors on pourrait dire que c'est une langue religieuse, ça j'accepterais, mais pas une langue divine. Parce que l'homme est un animal religieux. Et donc il peut se faire que dans un milieu particulier, une langue naisse avec toute la tonalité religieuse. Et Dieu s'est servi de cette langue pour nous révéler son mystère. quand Dieu dit « je suis celui qui est », »,« je suis celui qui suis », eh bien Dieu se sert de la langue dont parlait Moïse. Il s'est fait entendre à Moïse avec sa langue. Quand Dieu a parlé au petit Samuel, il s'est servi du langage et même de la tonalité. Ça, c'est plus extraordinaire, on reverra ça. La tonalité du vieux prêtre Élie, à tel point que le petit Samuel ne savait pas distinguer. Alors, la tonalité, ça joue beaucoup, c'est la voix. Et Dieu s'est servi donc de la langue du prêtre et de la tonalité pour être plus proche, pour ne pas effrayer l'enfant. Dieu s'adapte merveilleusement aux enfants, comme le Saint-Père. Il s'adapte merveilleusement aux enfants et il les aime, il est tout proche. Quand il s'agit de gens plus cultivés, alors Dieu prend des gants. Et alors il est plus cultivé et il fait mieux comprendre la différence. Quand Dieu parle à un savant, un mathématicien, Dieu ne prend pas le langage mathématicien et scientifique. Il prend le langage du Père. Faire comprendre la différence qui existe entre les deux. Bon, il y a un phénomène tout à fait particulier qui fait que Dieu se sert de la langue des hommes. Se servant de la langue des hommes, il se sert de la grammaire, de la structure d'une langue. Philologie, si vous voulez, ce que nous apprend la philologie. Il n'invente pas une nouvelle grammaire, comme Dieu n'invente pas une nouvelle philosophie. La philosophie n'est pas objet de révélation. Mais, dans la parole de Dieu, il y a le génie d'une langue qui est assumé. Il y a une philosophie qui est assumée. C'est-à-dire une vision sur l'homme. Mais Dieu nous parle non pas pour nous révéler ce qu'est l'homme, mais pour nous révéler ce qu'il est. Et il se sert du langage humain pour nous parler. C'est très important ça, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre que la théologie peut exister. Si Dieu avait pris, je prends exprès l'hypothèse, si Dieu avait pris une langue spéciale, qui serait la langue de Dieu, que seul le croyant recevrait, il ne pourrait pas y avoir de théologie. Parce qu'il y aurait hétérogénéité absolue entre le message de Dieu et ce que l'homme pense par lui-même en philosophie, ce que l'homme communique aux autres au point de vue humain. Et donc, il y aurait dans le message de Dieu quelque chose d'unique qu'on devrait garder jalousement comme la perle sans la contaminer. Très important de comprendre ça parce que ça existe cette conception. Ça existe. Si l'hébreu est une langue divine, il ne peut pas y avoir de théologie. C'est impossible. Parce que seul celui qui croit reçoit ce langage. Les autres ne peuvent pas entrer dans ce langage. Puisqu'on n'y entre que par la foi. Puisque c'est une langue divine. Donc on ne peut y entrer que par la foi. Si au contraire Dieu se sert d'une langue d'un peuple religieux, mais qui est un peuple humain. Si Dieu se sert d'une langue qui existe avec sa propre culture, le grec, si Dieu se sert du latin avec sa propre culture, le génie grec et le génie latin sont totalement différents l'un de l'autre, nous le savons bien, n'est-ce pas ? Alors, ces deux génies, Dieu se sert de la langue qui est le fruit de toute une culture, c'est bien évident. La langue est le reflet de toute une culture. Et il y a quelque chose de vrai en disant que le langage dépend de tout le milieu dans lequel il est. On ne parlait pas de la même manière au XVIIe siècle que maintenant. Il y avait quelqu'un qui sortait du XVIIe siècle et qui entendait des cours donnés maintenant, il dirait « bigre », alors c'est effrayant. Bien quand vous allez au Canada et qu'on vous dit, n'est-ce pas, avec une simplicité merveilleuse, c'est nous, et pour mettre l'accent, il faut l'entendre, c'est nous qui avons le langage de Louis XIV. Et je me souviens, la première fois que j'étais au Canada, c'était en 50, et je devais donner des cours à l'université. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, parce qu'à l'université, il y avait que des gens des États-Unis et quelques Canadiens, c'était pas très drôle. J'ai demandé de prêcher, ce qui m'intéressait beaucoup plus. Alors j'étais prêché dans le bas Canada, dans le bas Québec, je veux dire. C'est le bas de la ville de Québec, c'était beaucoup plus intéressant, parce qu'alors on avait quand même des gens du cru. Il y avait des petits enfants de cœur qui parlaient d'une façon telle que je ne comprenais rien du tout. Ils parlaient français. Mais je ne comprenais rien du tout. Et alors le curé, tout d'un coup, s'est mis à éclater de rire. Il m'a dit, vous ne savez pas ce qu'ils disent ? Ah, ils disent, pour sûr que c'est un étranger, il ne parle pas français. C'est le phénomène, vous voyez, de la langue et des modifications de la langue et d'un milieu de culture, c'est différent, ça fait que ça se modifie d'une manière ou d'une autre, et ça se comprend très bien. Dieu se sert d'une langue humaine. Parce que Dieu se sert d'une langue humaine, il y a toujours dans la révélation un impact humain. Ça, c'est très très important. Comme dans tout acte de foi, l'intelligence est présente. Je ne peux pas faire un acte de foi à l'état pur sans que l'intelligence soit présente. Alors nous avons deux impacts par où, de fait, la théologie n'est pas extérieure à la foi. Mais la théologie naît à partir de la foi, pas comme extérieure. L'impact de la parole et l'impact de l'intelligence présente à la foi. Quand vous faites un acte de foi, vous faites aussi un acte d'intelligence. Complètement assumé par la foi, mais l'intelligence demeure. Forcée. Puisque la foi est reçue dans l'intelligence. Alors, on comprend comment il y a deux manières de pouvoir développer le mystère de la foi, par le point de vue de la parole, et par le point de vue de réfléchir sur ce que c'est que l'intelligence. Et de voir par là comment on peut développer, expliciter certains aspects du mystère de la foi. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Je vous prends ce lieu très important, l'Épître aux Hébreux. Donc, prenez le début de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas ? C'est simplement ce passage que vous connaissez bien. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en cette fin des jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire, empreinte de sa substance, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant plus supérieur aux anges que le nom dont il a hérité l'emporte sur le leur. Oui, la multiplicité et l'unité. La multiplicité des paroles de Dieu par les prophètes, et puis le sommet par la parole du Fils, qui est la parole, où la révélation atteint un sommet. Et puis alors, cette réflexion, chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, verset 12, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe à l'exemple de cette désobéissance, car elle est vivante, alors c'est le verset 12, 4, 12, car elle est vivante, la parole de Dieu. » Alors ici, il faut saisir toutes les propriétés qui nous sont données. Parce qu'alors, à partir de là, nous pouvons saisir ce que représente le mystère de la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et il n'est pas de créature invisible devant elle. Tout est à nu et mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voyez ce petit passage. Et alors, ce petit passage résume, synthétise tout ce que, à travers l'Écriture, nous prendrons quelques passages, à travers l'Écriture, nous voyons sur le mystère même de la parole de Dieu. Il faut donc réfléchir sur ce qu'est la parole de Dieu, telle que Dieu la présente, et comprendre comment, si nous voulons réfléchir sur cette parole de Dieu, comment la philosophie numéro 1, la philosophie numéro 2, expliciter ce mystère de la parole de Dieu. La philosophie numéro un, vous voyez bien, c'est saint Aristote, saint Thomas. Et la philosophie numéro deux, c'est Occam, Heidegger.